Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Ce mois-ci, les pâquerettes hivernales sont arrosées par Radio d'ici. Implantée dans le sud de la Loire et le nord de l'Ardèche, notre radio couvre un territoire à la fois rural et urbain, un territoire entre moyenne montagne avec une grande partie du sud du massif du Pilat et les montagnes du Haut-Vivarais, et une partie en piémont avec le bassin annonéen et les contreforts de la vallée du Rhône. Terre de carrefour, de rencontres, mais aussi terre de résistance, d'accueil et de solidarité. Au sommaire de cette émission, une rencontre avec l'association Cap Solidaire à Annonay qui accompagne les familles ayant des difficultés avec la scolarité de leurs enfants. Cette association a mis en place un parcours citoyen pour aider les personnes primo-arrivantes à mieux se repérer dans le dédale de l'administration française et favoriser ainsi leur intégration dans la communauté nationale. Nous rejoindrons ensuite la Fabrique de Territoire, toujours à Annonay, qui regroupe plusieurs associations et qui a organisé en novembre 2022 le mois de l'ESS, Économie sociale et solidaire. Nous terminerons cette émission avec le festival Groseille et Ciboulette dans le Pilat, festival des initiatives locales positives et solidaires. C'est parti, cap sur la solidarité en Sud-Loire et Nord-Ardèche, avec l'association Cap Solidaire. Marie et Véronique, vous travaillez à Cap Solidaire. Marie, tu es animatrice socioculturelle. C'est la fonction, c'est peut-être pas exactement tout ce que tu fais, ça recouvre pas tout ce que tu fais. Et Véronique, tu es médiatrice sociale. Pareil, ça recouvre pas forcément, c'est une étiquette. Ça recouvre pas forcément tout ce que vous faites à Cap Solidaire. Cap Solidaire qui est une association qui fait du soutien scolaire, de l'éducation numérique, de l'accompagnement à la parentalité et aussi des remises à niveau et apprentissage du français. Tout ça à destination des enfants et puis des scolaires, surtout des jeunes scolaires. Mais si on se retrouve aujourd'hui autour du micro, c'est surtout pour parler du parcours citoyen qui a été mis en place par Cap Solidaire. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Pour que ça s'éclaircisse dans nos esprits et puis surtout que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre tout ce que recouvre ce concept de parcours citoyen. Et à quel besoin répond ce parcours ? C'est peut-être Marie qui va commencer.
Oui, alors le parcours citoyen, ça s'adresse aux adultes qu'on accueille dans notre association dans le cadre de ce qu'on a appelé « remise à niveau » en français. Parce qu'en fait, on a un financement atelier sociolinguistique et un financement dans le cadre du contraint d'intégration républicain. Donc en fait, ça concerne les primo-arrivants qui ne parlent pas encore bien le français. Et donc, c'est un programme de formation sur l'année avec des supports qu'on a voulu vraiment adapter au niveau et aux besoins de nos bénéficiaires. Parce qu'avec Véro, du coup, de par nos formations respectives, on a vite remarqué que ce qui existait en termes de formation, peut-être dans les manuels scolaires et tout ça, en français langue étrangère, c'était pas forcément adapté à nos apprenants, parce que du coup Véro, elle est travailleuse sociale de formation et moi du coup formatrice FLE.
Et FLE, c'est donc français langue étrangère.
C'est ça. Et du coup, on a eu envie d'allier l'apprentissage de la langue mais aussi insertion sociale à travers des besoins du quotidien, mais vraiment pratico-pratique, des choses qu'on a besoin de faire tous les jours, comme aller acheter son pain ou à remplir un document administratif. Et tout ça à la fois en abordant les valeurs de la République.
Alors, aborder les valeurs de la République à travers les activités quotidiennes, c'est pour ça que vous avez appelé ce parcours « parcours citoyen ». C'est comme ça que vous l'avez relié. Mais est-ce que c'est facile d'aborder les valeurs de la République à travers le français langue étrangère ou à travers les démarches administratives, à travers les rencontres avec les différentes structures ? Alors oui, c'est Véro qui va nous répondre, Véronique.
Oui, c'est assez facile parce qu'au final, les valeurs de la République, ce n'est pas juste les valeurs de la République en tant que telle, c'est aussi tout ce qui va engager derrière. Les notions de respect, les notions de solidarité, les notions les vraies valeurs, liberté, égalité, fraternité, dans lesquelles on peut faire rentrer énormément de choses. Et finalement, quand on est primo-arrivant, on bénéficie de droits. Donc par exemple, les droits, on va faire rentrer des valeurs de la République comme le principe de solidarité au niveau de la France. Quand on a son enfant qui est scolarisé dans un établissement scolaire, on va également faire rentrer les notions, par exemple, de respect, les notions de droit, de liberté. Donc en fait, finalement, quelle que soit la thématique travaillée et le lieu quotidien dans lequel on peut évoluer, il y a des valeurs de la République qui vont ressortir.
Ce parcours citoyen, c'est le premier parcours que vous mettez en place. Il a eu lieu donc au printemps 2022. Vous avez reçu un certain nombre de personnes qui venaient d'un peu toutes les origines géographiques.
La richesse finalement de ce parcours citoyen et puis même de notre travail, c'est cette multiculturalité parce que on a des personnes. On rencontre surtout des personnes et des moments de vie qui viennent de différents pays. On a des personnes qui viennent du Maroc, on a des personnes qui viennent de Russie, d'Arménie, voilà, et avec toute leur histoire qui viennent avec eux finalement.
Leur histoire personnelle et l'histoire de leur pays et leur culture.
Tout à fait.
Et leur culture, ce qui m'amène à dire que vous mettez en place dès cet automne le parcours culture qui vient compléter ce premier parcours citoyen. Ça sera un deuxième volet finalement, puisque la culture c'est aussi une forme d'intégration.
En fait, on accompagne des personnes, donc on accompagnait l'année dernière, donc on a monté ce parcours citoyen l'année dernière, et qu'on a voulu vraiment dans une dynamique vraiment hyper quotidienne, mais dans les gestes du quotidien, c'est-à-dire la scolarité, l'ouverture des droits, la République en elle-même, on a été à la mairie, tout ce qui va être l'emploi, la protection sociale, etc. etc. Et en fait, les personnes avec qui on a travaillé l'année dernière, on les retrouve cette année. Donc, on ne peut pas, enfin en tout cas, nous, ça ne nous paraît pas pertinent de refaire exactement la même chose. Donc, en fait, cette année, on s'est projeté dans se dire, en fait, finalement, tout ce qu'on a travaillé l'année dernière, on peut aussi le travailler, mais avec cette accroche de la culture pour cette année.
Et avant de voir concrètement ce que veut dire le parcours citoyen, je voudrais qu'on revienne sur deux notions, c'est-à-dire le primo-arrivant, c'est qui exactement? Il y a une définition plus ou moins administrative pour une personne primo-arrivant.
C'est dans le mot, la définition. C'est quelqu'un qui vient d'arriver depuis moins de 5 ans.
Moins de 5 ans, c'est ça.
Et qui, normalement, soit il a fait une demande d'asile qui a été acceptée, soit il y a d'autres critères que...
Il y a des conditions, ça peut être par exemple quelqu'un qui dans son pays a une orientation religieuse qui va faire que du coup il va pas être toléré dans son pays, une orientation sexuelle, des histoires de vie qui font qu'en fait il y a certains critères où en fonction des pays aussi il y a des pays qui sont classifiés on va dire comme étant dangereux et qui font que derrière on peut accorder une demande de résidence sur le territoire français.
Alors justement, je voulais revenir aussi sur cette idée de contrat d'intégration républicaine. Ça consiste en quoi? Vous pouvez nous l'expliquer en deux mots?
C'est une formalité administrative et c'est un engagement. Les personnes qui sont définies comme primo-arrivants, ils doivent le signer. Et donc ça leur ouvre plusieurs droits, tous les droits qu'on a en fait quand on est citoyen français. Et ça les engage aussi à suivre un parcours de formation de 2 jours, il me semble bien, justement sur des valeurs de la République.
Et la langue.
Et voilà.
Et l'apprentissage de la langue, bien sûr.
Et ça leur ouvre une formation linguistique. Alors nous, on n'est pas un organisme officiel. Nous, le parcours qu'on propose, c'est quelque chose en plus, en fait. C'est un à côté de ce parcours obligatoire.
Et vous l'avez mis en place parce que vous avez constaté donc les besoins dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais.
Alors concrètement, on va revenir donc sur ce parcours. Qu'est-ce que vous faites avec les personnes qui participent au parcours?
Le parcours pour alors cette année, on est encore en train de le construire. En tout cas, pour l'année dernière, on l'a envisagé sous plusieurs thématiques. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on a fait une première thématique vraiment républicaine, avec tout ce qui concerne la mairie, les valeurs vraiment liberté, égalité, fraternité, l'État, le maire, comment fonctionne une mairie, etc., etc.
La laïcité aussi.
La laïcité, tout à fait. On a fait une deuxième thématique qui était la scolarité, une troisième thématique qui aurait dû normalement se faire, qui était le marché, mais Covid oblige, c'est passé à l'as. On a fait une thématique sur la protection sociale et on a terminé avec une thématique liée à l'emploi. Et en fait, pour chacune des thématiques, on va travailler sur différents éléments. Donc, on va travailler forcément sur les valeurs de la République. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À chaque fois, on va essayer de ramener à la thématique une des valeurs de la République. On va travailler sur l'approche du numérique, puisque à l'heure actuelle, eh ben, tout est dématérialisé quasiment et l'ensemble des démarches sont à faire par l'outil numérique. On va travailler sur l'approche des droits sociaux. On va travailler sur la langue. Donc, si je prends un exemple, par exemple, quand on a travaillé sur la mairie, on a travaillé dans un premier temps sur savoir se présenter. Je sais renseigner mon nom, je sais renseigner mon prénom, je sais renseigner mon âge, ma situation familiale, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, donc je sais le dire, je sais le comprendre, je sais l'écrire, je sais le lire. On a associé à ça donc forcément les valeurs de la République. Et en fait, ces valeurs de la République, toujours dans cette idée de rattacher à sa propre histoire, à sa propre culture, on a fait un parallèle en fait entre voilà, la France, les valeurs, donc le drapeau, l'hymne national, l'emblème, le slogan entre guillemets, la devise.
La devise, oui.
Voilà. Et ces symboles-là, finalement, quels étaient-ils dans leur pays?
Et comment ça résonne pour vous, voilà, par rapport à leur propre
pays? Pour voir qu'en fait, finalement, vous êtes en France, donc vous avez, pour certains, abandonné une partie de votre histoire, en tout cas, laissé des choses dans son pays, mais vous avez quand même beaucoup de similitudes en France. Donc on a travaillé sur ça. Et au final, en fait, le point d'orgue, c'est qu'on a été reçus à la mairie avec les primo-arrivants, les personnes que l'on accompagne. On a bénéficié d'une visite avec Michel Sévenier, qui était élu à la mairie, qui nous a ouvert vraiment les portes de la mairie. Donc toutes les salles, la salle des mariages avec cet immense tableau de la Révolution. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un moment qui était hyper sympa, parce que du coup, ils ont fait plein de photos, ils ont fait la photo avec Monsieur le maire. Il y a eu énormément de questionnements également après de Michel Sévenier sur le fonctionnement de la mairie, sur le fonctionnement de l'État. Et puis ça a créé une cohésion de groupe au final. Et en fait, ça, on le reproduit pour chaque thématique. C'est-à-dire, quand on parlait de la scolarité, la mairie avait la gentillesse de nous ouvrir l'école de Jean Moulin. Donc on a pu voir finalement cette histoire de laïcité, cette histoire d'égalité, cette histoire d'obligation de scolarité, ces valeurs-là, et puis comment fonctionnaient les programmes, comment fonctionnait la cantine, la garderie qui sont des services de l'État. On a eu aussi la principale du collège des Perrières, Madame Perrin et Madame Bourg, qui nous ont fait visiter le collège. Donc on est encore pu revenir sur les thématiques liberté, égalité, fraternité, comment est le collège, parce qu'en fait avec le Covid, il y a des parents qui n'avaient pas pu assister aux portes ouvertes, donc ça permet aussi à la maison, quand l'enfant y rentre, il dit j'ai eu tel cours, j'étais dans telle salle, visuellement les parents l'ont vu. Et puis enfin, du coup, on revient sur ce numérique. Elles ont expliqué en tout cas aux parents comment fonctionnait cette plateforme numérique pour pouvoir les inclure dans le parcours de scolarité de leur enfant. Et en fait, à chaque fois, à chaque thématique, on se rend sur le lieu sur lequel on a travaillé avec tout le travail qui a été fait à l'association en amont sur un point particulier au niveau de la maîtrise de la langue.
Et pour les outils numériques, par exemple, vous avez vu avec eux aussi quels étaient les lieux ressources quand on n'a pas tout le matériel nécessaire. Vous avez visité donc ces lieux-là.
Le PN.
Voilà, merci. Visité aussi ce qui concerne la sécurité sociale, la CAF, tous ces organismes.
La CPAM.
Donc vous avez fait le tour quand même assez exhaustif.
Il y en a encore beaucoup à faire, mais... En tout cas, pour ce premier parcours citoyen, on a essayé d'être vraiment dans les besoins concrets du quotidien. D'être vraiment ciblé.
Et pour le parcours culture, alors, vous allez vous tourner vers le théâtre. J'avance. Je prends de l'avance sur ce qui va se passer.
Alors, tout n'est pas encore organisé parce que, en fait, ce fameux parcours au sens propre, du coup, puisqu'on se rend sur les lieux, parfois c'est compliqué à organiser avec les structures qu'on va visiter parce que c'est quand même un grand groupe. Ça nécessite la présence d'une personne qui va pouvoir s'exprimer de manière audible pour les personnes. Et mais en gros, dans les grandes lignes, dans l'idée, oui, on a des lieux culturels comme le théâtre en tête. On a la bibliothèque en premier lieu. Et mais bon, on va pas tout dévoiler.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et on va maintenant se tourner vers les personnes qui ont suivi ce parcours pour écouter surtout comment elles l'ont vécu.
Je suis venue à Emmaüs de Bougie et je suis contente parce que j'étais malade et je ne savais pas. C'est grâce à la France que je suis, que j'étais diabétique. J'ai été pris en charge à 100%. Très contente. Je ne peux même pas en parler. Parce que sinon, j'allais mourir à petit feu. Sans savoir. Et maintenant, je suis pris en charge. Je vais à l'hôpital. Là, je suis très contente parce que j'ai retrouvé ma santé. Je suis suivie. Ça seulement, c'est pas une petite chose pour moi. Je ne sais pas comment remercier la France.
Je m'appelle Fadila. Je suis algérienne.
Je m'appelle Saïda. Je suis marocaine.
Je m'appelle Camara Elise. Je suis guinéenne. À Guinée-Conakry.
Je m'appelle Anissa, je viens du Maroc.
Je m'appelle Khadija, je suis algérienne.
Je m'appelle Fatima, je suis marocaine.
Je m'appelle Nabil, moi, Maroc.
Je m'appelle Slim, je suis tunisien.
Je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise.
Je m'appelle Elie, je viens de Albanie.
J'ai entré à la France en 2006. Après, j'ai resté 3 ans ailleurs, à Valence, mais j'ai très souffert encore. J'ai très très souffert. Je viens à Emmaüs, j'ai très contente. Qu'ils disent, de manger, pour travailler, pour dormir, pour la douche, pour tout. Mais j'ai très contente pour l'école française aussi, aujourd'hui. Je sais tout, mais ça va. Merci beaucoup.
Moi, j'ai pris des risques. C'est un petit bateau, il y a 60 personnes dedans. Pour passer, on arrive en France. Mais ce n'est pas facile. Hein. Je me souviens, ce jour-là, j'ai tombé choqué. Quoi. J'ai dit, c'est pas vrai que je suis là aujourd'hui. Non. Les vagues des plages, comme la maison, elle est changée, les bateaux comme ça, à droite, à gauche. Il y a des gens qui mourent avec nous aussi. Hein.
Oui.
Ouais.
Malheureusement.
Un gros choc.
En fait. Oui. On fait tout pour venir. On prend les risques. Aujourd'hui, on est là avec vous. On est content, le bonheur, tout ça.
Content, oui.
Oui, vraiment. Quand tu penses les passés, tu n'avances jamais dans ta vie. Passé. Faut toujours en avance.
En avance, oui.
Je suis venu à la communauté Bougie. Je n'ai rencontré que des bonnes personnes qui ont des sentiments pour les uns et pour les autres.
Ava, je ne connais rien du tout. Francie, je ne connais rien. Mais maintenant, grâce à la France, grâce à, comment ça s'appelle, pour l'école, encore grâce à Emmaüs, je connais encore beaucoup de choses. Moi maintenant, à Emmaüs, je suis cuisinière. des fois cuisinière, des fois je vendais, je travaille tout. Beaucoup de choses. Ça va.
J'ai appris beaucoup de choses. Je fais la cuisine, je fais le tri, je fais la vente, je fais la caisse maintenant. Surtout la caisse. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est des choses que je n'avais jamais fait. Au pays, quand j'étais là-bas, je faisais le commerce.
Avec mes enfants, mon mari, tout le temps, on va regarder le journal.
D'accord.
Pour comprendre ça, qu'est-ce que ça passe. Le journal de télévisé.
Les dessins animés aussi, un peu les enfants, du coup.
Pour mes enfants, pour les enfants. Mais pour moi. Mais les enfants, elle parle bien français maintenant à cause de l'école.
Ouais. L'école, ça a vraiment facilité les choses.
Ouais, c'est ça.
Et elles se sentent bien ici, elles se sentent bien avec leurs amis, avec.
Ouais.
J'ai des projets, mais moi, je n'ai pas un métier, mais je peux tout faire sans l'électricité que. Je ne vais pas toucher. Après, pour le reste, pour une maison, je peux tout réparer. Et c'est ça mon projet. Je vais faire une annonce ou une chose comme ça. Et je vais continuer comme ça.
Tout ça, là, c'est grâce à la France. Je pense que moi, on ne sommes pas le maïs juste pour le papier, mais pour apprendre. Pour nous intégrer, pour cotiser comme tous les travailleurs de la France. Et on est à la communauté pour apprendre beaucoup de choses, pour que le jour où on va sortir, pour se soutenir soi-même. Donc on est là pour nous battre, pour apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Je suis très très contente, je ne peux même pas en parler. Notre chef aussi, il n'y a pas de différence. Il ne met pas de différence. Il nous traite de la même pied d'égalité. Il nous aide à nous former, à être correct pour qu'on soit libre demain dans nos différentes maisons. Que c'est ça l'intégration. Nous remercions nos professeurs et vous, les médias aussi, le fait que vous nous avez reçus ici, essayer de voir, parler, connaître ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne connaissait pas. Grand merci.
Oui, je suis trop contente à Emmaüs. Ouais, que j'entrais à Emmaüs, jamais j'oublie ça toute la vie.
C'est un pays qui t'aime trop. Voilà. J'ai pris beaucoup de choses ici. J'ai avancé dans ma vie. Mais ce n'est pas tous les pays qui vont l'accepter comme je suis aujourd'hui. Moi, j'aime bien la France. La France, c'est un pays adorable pour moi.
Merci beaucoup. Merci à la France. Merci. Pour
merci l'équipe de radio.
Le
merci
radio.
La maîtresse Marie et Véronique.
Le Cap Solidaire. Oui.
L'école
Cap Solidaire, oui.
Merci à vous et bravo d'avoir parlé au micro.
Mon patron Franck.
C'est la première fois pour tout le monde.
Oui.
Pour moi, je pense que j'avance bien parce que j'aime bien vivre ici en France. Tu ne peux pas vivre dans un pays que tu ne connais pas ni la langue ni la culture. Comme ça, que je vais bien apprendre plus.
Et vous voyez vos progrès, du coup, depuis que vous avez commencé.
Ouais.
Chaque jour, vous êtes capable de vous dire là, j'avance, j'ai progressé, je vois que les situations sont moins difficiles, je peux communiquer. Mmh. C'est encourageant, du coup.
Ouais.
D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage au micro et bravo.
Merci
pour votre témoignage.
Merci. Merci la Cap Solidaire. Merci beaucoup, France.
Le truc qui les ramène les gens, le bonheur pour moi, la journée que j'ai reçu les papiers.
Sans richesse, sans le sou des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être connu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse,
Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester. Des semaines sans rien faire, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, laisse les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus. On n'est plus qu'un pauvre diable, royé et déçu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites au plus voir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Nous poursuivons cet épisode d'Aura des pâquerettes sur la solidarité en Sud-Loire et Nord-Ardèche avec le mois de l'ESS, économie sociale et solidaire, à Annonay, organisé par la Fabrique de Territoires.
On écoute d'abord Julien Deséchos du magazine Sans Transition qui fait le point sur la place de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en France.
Toutes les enquêtes le démontrent, depuis le début de la crise sanitaire, les salariés sont plus que jamais en quête de sens dans leur vie professionnelle. Alors comment faire en sorte de redonner du sens à son travail ? Audencia et Jobs That Make Sense, la première plateforme d'offres d'emploi à impact, ont publié cette année une étude sur le sens au travail menée auprès de salariés et d'étudiants. Les chiffres sont criants. Le sens est une préoccupation pour 92% d'entre eux. Parmi ceux-ci, la moitié se pose des questions alors que 42% ont déjà entrepris une transition professionnelle. Qu'entendent ces répondants par quête de sens au travail ? Pour une majorité, il s'agit d'une volonté de contribuer aux enjeux de la transition écologique et sociale, suivie par le besoin de se sentir utile pour 53%, mais aussi la dimension responsable. comme appartenir à une organisation à impact positif sur la société et la planète, avec l'économie sociale et solidaire ou la RSE pour responsabilité sociétale des entreprises pour 42% d'entre eux. L'économie sociale et solidaire englobe à la fois les associations comme Cap Solidaire dont vous avez entendu précédemment l'action sur Annonay, mais également les coopératives comme le magazine Sans Transition que je représente, mais aussi les fondations et autres entreprises d'insertion ou à mission. Toutes ces entités juridiques ont un point commun. Elles adoptent des modes de gestion démocratique et participative sur la base un homme, une femme, une voix. Elles encadrent l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent. Le profit individuel est prescrit et les résultats sont réinvestis ou partagés. De surcroît, cette ESS, l'acronyme, est ancrée dans les territoires et œuvre en proximité en proposant une véritable utilité sociale de plus en plus axée sur l'écologie, les transitions. Avec près de 29 000 entreprises en région, l'économie sociale et solidaire arbore ce sigle ESS. Elle représente plus de 10% de la totalité des entreprises, dont 11% des structures privées. 304 000 salariés y œuvrent au quotidien, soit 11% des salariés de la région et près de 15% pour le privé. Au sein de cette économie engagée, les associations sont les plus représentées, avec 84% des établissements et près de 80% des salariés, soit 180 000 structures en activité qui s'appuient sur quelque 1,6 million de bénévoles. C'est l'autre force de l'ESS, ces citoyennes et citoyens qui contribuent à accompagner le mouvement par des actions très concrètes. Viennent ensuite, je l'évoquais, les coopératives, 11% des établissements, 12% des salariés, les mutuelles, 4% des établissements et près de 7% des salariés. Enfin, les fondations avec près de 1% des établissements et 3% des salariés. Bonne nouvelle, l'économie sociale et solidaire est présente dans tous les secteurs de l'économie, même si elle se concentre dans ceux du sport, des loisirs, de l'action sociale, des arts et du spectacle, voire de l'enseignement ou encore des activités financières. Vous l'aurez compris, si vous êtes en quête de sens, en transition professionnelle, l'ESS est faite pour vous.
Eh bien, allons écouter voir comment ça s'organise sur Annonay.
Anne-Claire, directrice du VANCFK, qui fait partie du consortium de Fabrique de Territoire. Mmh. Alors, la Fabrique de Territoire, c'est un label national qui regroupe différentes structures. Et nous, on a décidé sur Annonay de le faire avec trois structures. Donc, la MAGMA.
Maison d'agitation multiculturelle et associative.
Chapelle 2.0.
Espace de travail partagé.
Et le VANCFK.
Tiers lieu associatif.
Et donc, ce regroupement, ça nous permet d'être identifié comme lieu ressource pour les associations ou d'autres structures aussi entreprises pour défendre l'entrepreneuriat, la culture et la solidarité à Annonay.
Alors donc c'est un regroupement d'associations qui sont à Annonay par exemple pour vous.
Voilà, associations et pas que. On peut aussi s'adresser à des publics plutôt entrepreneuriales avec un modèle d'entreprise ou de scope. C'est pour tous.
Pierre-Adrien Breuil, je suis chargé de mission développement économique à Annonay-Ronaglo, la communauté d'agglomération.
Donc vous êtes tous deux ici pour un même événement, un événement national qui va aussi s'effectuer à Annonay, c'est le mois de l'ESS. Alors, qui de vous deux se sent de nous parler, de nous présenter un peu plus ce que c'est, déjà nous parler un peu de ces sigles ESS, ce que ça veut dire?
Alors oui, je peux vous parler de l'ESS. L'ESS, ça veut dire économie sociale et solidaire. Donc en fait, c'est un modèle différent de développement de l'économie locale fondé sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. En fait, il s'agit de donner du sens à l'économie par un autre mode d'entreprendre et de développement économique. Mmh. Mais l'ESS également place l'homme au cœur des préoccupations, et que les projets soient d'économie marchande ou non marchande. Donc il y a une certaine typologie de structures qui font partie de l'ESS, comme les associations, les mutuelles, les fondations, et qui permet d'identifier effectivement assez rapidement les structures qui font partie de cette typologie d'économie.
Donc, durant ce mois de l'ESS, le but, c'est de regrouper tous ces organismes pour faire un événement dans un bien commun. Comment est-ce que ça s'organise un mois de l'ESS ?
Eh bien, déjà, c'est regrouper différents acteurs. Donc, nous, on a décidé de se regrouper avec l'agglomération, Fabrique de Territoire et Pollenscop pour justement faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et c'est rien de mieux que le faire à travers de cet événement national du mois de l'ESS. Donc cette année, on a décidé de l'ouvrir au maximum des acteurs du territoire d'Annonay en leur permettant
d'intégrer notre organisation et d'aller vers eux pour leur demander qu'est-ce qu'eux souhaitaient faire pendant le mois de l'ESS. Mmh. Et donc nous, le COPIL, donc les quatre personnes que j'ai citées, on a travaillé à faire en sorte que chaque structure qui souhaitait présenter un projet puisse le faire dans un planning bien précis et voilà, puisse avoir un peu de visibilité autour de comment est-ce qu'eux portent l'économie sociale et solidaire au sein de leur structure.
Donc c'est un mois qui est dédié, mais en fait c'est aussi un peu la continuité de chaque acteur qui vont participer à ce mois de l'ESS, dans le sens où continuellement en fait c'est leur action du quotidien de mettre en avant l'humain, c'est ça avant tout, de mettre du lien.
Oui, effectivement, en fait, cette économie, elle vit tout au long de l'année. Là, c'est la 15e année, en fait, que ce mois de l'ESS existe au niveau national. Et pour le bassin, c'est la 2e année où ce collectif tente de mettre en lumière les initiatives et finalement ce qui existe sur le territoire. Mais les différents acteurs œuvrent tout au long de l'année. Là, c'est simplement un focus, une mise en lumière on va dire une mise au calendrier en visibilité des différents événements que peuvent porter ces structures.
Oui, c'est un peu, en fait, pour mettre en avant aussi certaines structures, certains acteurs, en fait, locaux, et se dire que peut-être des habitués de telle ou telle structure, organisme ou association puissent, en fait, entendre parler d'un autre et peut-être aller par curiosité découvrir aussi ce que font les autres. C'est ça aussi à quoi sert ce mois-là.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, les propositions, elles sont assez diverses. Et autant certaines propositions, elles vont permettre d'aller découvrir un peu mieux une structure, autant certaines propositions, elles vont être plus d'aller creuser un sujet, une thématique autour de l'économie sociale et solidaire.
Donc, l'ESS, donc, comme tout juste dit, c'est une économie sociale et solidaire. Quand on accueille un événement comme celui-là dans une ville comme Annonay, donc grâce aussi à l'agglo d'Annonay, c'est aussi un travail, j'imagine, entre ces différents acteurs pour le mettre à bien, ce mois-là, en tout cas pour faire en sorte que tout se tourne bien. Comment est-ce que la rencontre s'est faite avec la Fabrique de Territoire, avec l'agglo, même avec tous les autres? Est-ce qu'il y a eu un crash test, une année où vous avez déjà essayé, ou est-ce que c'est une première?
Alors, Si je peux parler au nom du collectif, mais effectivement, la genèse un peu de cette envie de pouvoir promouvoir l'économie sociale et solidaire, c'est venu à l'été 2021, où effectivement, au fil des rencontres, plusieurs organisations ont eu envie de coopérer afin de mettre en lumière ces initiatives qui, des fois, on avait l'impression qu'elles étaient un petit peu occultées ou dans l'ombre. Sachant qu'il y a un événement national, c'était une opportunité de pouvoir effectivement bénéficier aussi de ce rayonnement, d'utiliser aussi des moyens de communication qui nous permettaient plus facilement de mettre en avant cette typologie d'initiative et d'économie.
On a décidé cette année de mettre en place un forum de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment l'événement qui va lancer ce mois-là à Annonay. Donc c'est un forum de structures qui travaillent autour de l'économie sociale et solidaire. Chaque structure a un stand et les participants peuvent venir questionner les structures sur en quoi est-ce qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire et aussi quelles sont leurs activités. Voilà, c'est un petit temps un peu de mise en lumière de ces structures de l'ESS. Mmh. Et ensuite, on propose une conférence table ronde autour de déconstruire les idées reçues et les préjugés autour de l'économie sociale et solidaire. Et on partagera après un petit pot commun tous ensemble. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un programme qui soit à la fois pour du tout public, des personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, mais aussi à la fois pour apporter peut-être un peu plus de connaissances à des professionnels qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui.
Alors effectivement, dans le cadre du mois de l'ESS, il y a une dizaine d'événements qui sont répertoriés, dont le forum de l'économie sociale et solidaire, mais vous pouvez aussi également retrouver des ateliers sur la gouvernance, une projection d'un film reprise en main. En fait, c'est l'histoire de salariés qui reprennent leur entreprise en mode scope. Mmh. Vous avez aussi des portes ouvertes, comme par exemple le Fab Lab du bassin annonéen, qui est situé au pôle entrepreneurial de Vidalon. Alors le Fab Lab existe depuis environ 2 ans. Il avait ouvert ses portes juste avant le Covid.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc ça avait été compliqué pour recevoir du public. Mais là, depuis le début d'année, il s'est installé d'une manière un peu plus durable au pôle entrepreneurial de Vidalon. Et en fait, deux mercredis pendant le mois de l'ESS, donc en novembre, deux mercredis après-midi, il va ouvrir ses portes pour accueillir tout public, pour pouvoir montrer les machines que les gens pourraient utiliser et les prestations finalement qui peuvent être dispensées, les formations au sein du Fab Lab. Vous avez effectivement aussi Active Emploi qui nous a proposé effectivement de réaliser un défilé de vêtements réemployés, donc qui seront réalisés par des bénévoles et des partenaires. Voilà, c'est l'occasion effectivement de mettre en avant leur savoir-faire. Et puis, vous avez également un atelier sur le sujet de l'entrepreneuriat dans l'ESS. Alors, avec un atelier pratique animé par un acteur de l'accompagnement dans l'ESS. Et puis, une rencontre sous forme d'apéro-rencontre avec toutes les structures d'accompagnement du bassin nonéen pour, au sein d'un même événement, rencontrer une multitude d'acteurs qui pourraient accompagner un porteur de projet.
Alors, pour les associations en particulier, on a décidé de travailler autour de la gouvernance pour le mois de l'ESS. Mmh. Et du coup, on a trois modules qui vont être tout au long du mois, de manière assez évolutive, en commençant par se poser la question: qu'est-ce que c'est une gouvernance au sein d'une association? Pour finir avec un peu plus, comment est-ce que je m'outille pour arriver à mettre en place une gouvernance partagée? Parce que c'est un mode de gouvernance qui est plutôt privilégié en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire. Et comment est-ce qu'on peut arriver à le mettre en place dans sa structure? Peut-être ce que je pourrais préciser concernant l'agenda, c'est que pour nous, c'est très important d'être attentif à avoir des ateliers ou des rencontres qui s'adaptent aussi en fonction des structures de l'économie sociale et solidaire. Parce que comme on l'a dit, il y a des associations, il y a des entreprises, il y a des mutuelles. Et en fait, toutes ces structures, elles n'ont pas forcément les mêmes questions, les mêmes interrogations face à l'économie sociale et solidaire. Du coup, là, c'est vraiment une manière de mettre en lumière toutes ces structures à un moment précis.
Alors en fait, effectivement, pour construire ce mois de l'ESS 2022, ça a été un petit peu différent de l'édition précédente, dans la mesure où on a fait un appel aux différentes structures sur la première partie de l'année pour leur demander si elles souhaitaient participer, si elles souhaitaient planifier un événement et si elles souhaitaient participer au forum également. On pense, on espère que cela a été beaucoup plus participatif pour que nous aussi, on n'avait pas forcément une visibilité globale sur l'intégralité des structures qui œuvraient dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc c'était aussi une occasion pour nous de mieux appréhender ce sujet-là et d'avoir une meilleure visibilité pour les associer plus en amont pour construire ensemble en fait ce programme. Et nous, je dirais simplement, notre rôle a été de coordonner et ensuite maintenant de mettre en visibilité ces différents événements qui sont portés par les structures de l'ESS. Effectivement, chacun apporte en fonction de ses outils également, de son réseau, des éléments pour pouvoir aider à mettre en place ce mois. Et on se rend compte que certaines associations souhaitaient davantage participer, sont revenus vers nous assez rapidement en nous disant c'est une initiative intéressante et on vous soutient et on voudrait participer. Donc c'est vrai que ça nous encourage aussi à continuer pour les années l'année prochaine. Voilà, donc notamment dans le cadre du forum, là où je parlais tout à l'heure d'une vingtaine de stands, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des structures dans différents domaines thématiques, que ce soit l'entrepreneuriat, la solidarité, l'insertion, l'emploi ou le développement durable. Parce qu'effectivement, l'ESS, c'est environ 200 à 300 structures sur le bassin nonéen. Et au niveau national, c'est quand même une économie qui pèse à peu près, selon les chiffres, 14% du PIB. Donc c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas que associatif, mais qui l'est beaucoup, mais qui est aussi assez prégnant dans l'économie. Donc ça semblait normal, notamment pour Annonay Ronaglo, de pouvoir effectivement parler également de cette économie.
Aura des pâquerettes.
Pour clore cet épisode d'Aura des pâquerettes, nous allons faire un petit tour dans le Pila et passer quelques minutes au festival Groseille et Ciboulette qui a eu lieu début septembre, une journée dédiée aux initiatives locales pourvu qu'elles soient positives, attentives aux questions d'environnement et bien sûr solidaires.
Thank you. sei amore, per di chiaro, o nella tua, ciao, 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 sei amore, per di chiaro, subito.
C'est la 8e édition. Avec les deux dernières qui se sont faites en off, sans public, à cause du Covid, évidemment.
Voilà, mais voilà. Vous avez quand même réussi à traverser la période Covid et à vous retrouver aujourd'hui. On est donc à Notre-Dame de l'Ermitage, à Saint-Chamond, parce que vous avez souvent changé de lieu.
Eh bien oui, on a souvent changé de lieu par la force des choses. Effectivement, Saint-Chamond ne pouvait pas nous proposer cette année de site convenable, parce qu'à cause du Covid, eh ben, ils ont eu beaucoup de mariages reportés. Enfin bref, voilà. Donc du coup, on s'est mis à chercher dans nos relations et puis quelqu'un nous a mis en relation avec l'association Notre-Dame de l'Ermitage, qui est une association qui est très impliquée aussi au niveau environnemental. Hein. C'est une association à but cultuel, mais donc avec une implication. Ils ont fait il y a quelques années les assises de l'écologie chrétienne.
Donc ce site correspond quand même à vos voilà, valeurs.
À l'état d'esprit, oui.
Voilà.
Oui.
Et cette année, vous avez organisé 3 conférences.
Oui, donc une sur l'éducation. Le thème général, c'était être citoyen du monde. Donc on a commencé par dire, eh bien, pour être citoyen du monde, il faut éduquer les enfants à la citoyenneté et à l'ouverture d'esprit, à la tolérance, etc. Et donc il y avait 3 associations qui étaient représentées là. École de la vie, une école parallèle à Chagnon. Il y avait école La Voix de la Forêt, qui est une école qui se fait dans la nature. Et puis il y avait les éclaireurs, voilà, qui ont présenté un petit peu leur pédagogie. Ça c'était ce matin. Cet après-midi, il y a une conférence sur la solidarité, où là vont intervenir Amnesty International sur la solidarité migratoire. Et puis le CCFD, le Comité contre la faim et pour le développement, qui donc travaille sur la souveraineté des peuples et donc justement la non-exploitation des ressources et des capacités d'un pays, mais plutôt l'entraide entre pays.
Il y a d'autres stands présents qui, je ne me rappelle plus le nom des associations, mais dont une association qui accueille des migrants.
Voilà, Jarret Solidarité.
Voilà.
Et la Maison Solidaire.
Et la Maison Solidaire, oui. Voilà. Donc, oui. Vous n'avez pas oublié la solidarité. L'environnement et la solidarité, ouais. C'est les deux piliers de Groseille et Ciboulette.
Absolument. Absolument. Et la troisième table ronde qui va plutôt être une causerie, c'est sur ce mode-là qu'on l'a prévu, et ça va être un petit peu sur le changement de nos comportements par rapport à nos tenues vestimentaires. Et donc le textile qui représente un impact écologique important, comment on peut récupérer le textile, le recycler, en faire des choses très belles et pour qu'il y ait d'autres comportements par rapport à ça.
Et vous aurez ainsi clos la journée. Vous avez ouvert la journée sur un moment didgeridoo, une ambiance musicale, et vous clôturez la journée de la même
façon. C'est ça, oui, d'accord. Tout à fait.
Bien, ouais. Voilà une belle journée à retransmettre aux auditeurs et aux auditrices.
Donc, juste pour vous dire que les crêpes se préparent, les savoureuses crêpes maison de David. Donc, voilà, vous pouvez vous ruer sur le stand. Et puis donc à 14h, nous aurons le démarrage de la table ronde solidarité et que vous pourrez dans laquelle vous pourrez intervenir. À bientôt.
Alors, la Maison Solidaire, on est une association qui est basée à Saint-Étienne et qui s'occupe d'accueillir et d'accompagner des mineurs isolés, non accompagnés. Donc, c'est des jeunes migrants, pour la plupart d'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas de famille sur le territoire français, qui sont arrivés en France tout seuls et qui se retrouvent à la rue puisque le département de la Loire et l'administration doutent et remet en cause leur minorité. Donc, par défaut, ils les considèrent comme majeurs. Et donc qui peuvent se débrouiller tout seuls, mais ce qui n'est pas le cas parce que ce sont des mineurs. Donc voilà, donc nous on intervient à ce niveau-là. On
les accueille, on les recueille, et puis ben, on s'en occupe comme n'importe quel ado qu'on pourrait avoir à la maison. Donc on les héberge, on les nourrit, on leur donne des vêtements, on les scolarise, on s'occupe de tout ce qui est médical également, et puis aussi un gros accompagnement administratif et juridique pour faire reconnaître leur minorité et bien faire comprendre à l'administration que ce qu'ils disent c'est vrai, qu'ils mentent pas, et qu'ils soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance comme n'importe quel enfant qui est tout seul.
Voilà. Et si justement ce parcours administratif n'est pas fini aux 18 ans de la personne, qu'est-ce qui se passe pour la personne?
Du coup, la reconnaissance de minorité n'a plus lieu d'être, parce qu'ils sont majeurs, et donc là on passe dans une autre procédure qui demande de titre de séjour comme là, n'importe quel. C'est encore autre chose. C'est plus tout à fait notre asso, même si on lâche pas les jeunes et les enfants qu'on connaît depuis plusieurs années, parce qu'en général ils arrivent chez nous, ils ont 15 ou 16 ans, donc on les suit depuis longtemps, on les lâche pas, on les abandonne pas comme ça, mais effectivement en général c'est d'autres associations qui prennent un petit peu le relais et à qui on demande de les suivre et de les accompagner. Ouais. Voilà, nous on est vraiment plus sur l'accompagnement de mineurs, donc jusqu'à leur majorité effectivement.
Alors on présente l'association Jarret Solidarité, qui est donc là sur le territoire et qui permet de mettre à l'abri des personnes qui sont sans papier, sans droit au travail, pour lesquelles on assure un hébergement et l'alimentation, l'aide matérielle nécessaire, l'accompagnement humain également. On a cette idée de changer le monde et on fait avec notre mesure.
Et le lien donc entre environnement, solidarité,
solidarité bien sûr.
Pour vous c'est important.
Bien sûr. Et solidarité, se dire qu'on ne peut pas rester inactif quand on voit ce qui se passe sur notre territoire.
Et vous recevez dans votre association, vous recevez beaucoup de personnes, il y a beaucoup de...
Des personnes qu'on accompagne?
Oui, que vous accompagnez.
Alors nous, l'association, on assure l'hébergement de 19 personnes, dont 11 enfants, qui sont tous scolarisés. Enfin, il y a des bébés, donc les enfants sont scolarisés. Et ensuite, on accompagne, on considère à peu près 80-85 personnes pour des aides.
Sur le bassin de Saint-Germain.
Ah oui, jusqu'à Saint-Étienne.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Notre petit tour d'horizon des solidarités à Annonay et dans le Pila s'achève. On est bien loin d'avoir fait une visite exhaustive de tout ce qui se fait, de tout ce qui se noue, de toutes les solutions qui se cherchent, se croisent et se nourrissent, mais on en a déjà un petit éclairage.
Oh, fais vite !
Ah, moi, je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, tant pis, je vais pas me battre.
Tiens, si t'as besoin d'aide, tu m'appelles pas.
Vous venez d'écouter Aura des pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des pâquerettes.